Philippiens chapitre 2, les versets 1 à 11. Je fais exprès de ne pas l'afficher pour que vous cherchiez dans votre Bible. C'est trop facile. Philippiens chapitre 2, versets 1 à 11. Un passage très connu, un des plus beaux passages de la Bible en fait. Enfin, après ça dépendra des sensibilités, mais en tout cas il est reconnu comme tel. Petit joyau théologique. Verset 1, il est dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » On avait commencé à étudier cette épître il y a quelque temps et on avait vu que Paul était en prison quand il a écrit cela et il avait démontré un amour, un témoignage aussi d'être un combattant en toutes circonstances. Mais pour combattre, il faut bien souvent de l'humilité. Si on combat, on l'a dit un peu tout à l'heure, si on vient avec notre orgueil, ben, je pense qu'on aura du mal à combattre. Et là, il va nous parler de l'humilité, mais il va se focaliser sur l'Église, mais aussi surtout par l'humilité par excellence qui est celle de Jésus-Christ. Pour que l'Église soit unie, il faut qu'elle soit humble. Et semblerait, on verra ça un peu plus tard au chapitre 4, qu'il y avait quelques petites dissensions là, entre Évodie et Saint-Èche. Et donc il y avait peut-être des frictions dans l'Église et des gens qui se prenaient pour je ne sais pas quoi. Et il rappelle tout simplement que l'humilité conduit à l'unité. Et en même temps, il va donner un exemple parfait, c'est justement Jésus-Christ, le grand Dieu qui a accepté de s'humilier. Des fois, nous, le petit homme que nous sommes, est-ce qu'on est prêt à s'humilier devant les autres? On essaye, mais on n'y arrive pas toujours. Et le grand Dieu, lui, va démontrer ce qu'est l'humilité. Et j'aimerais qu'au bout, on puisse apprendre à vivre cette humilité. Alors, trois choses. D'abord, que l'humilité, elle est nécessaire pour qu'on puisse vivre en paix. C'est obligatoire. On va voir ça. Deuxième chose, c'est qu'on a un exemple, justement, d'humilité par excellence. Puis une troisième chose, il y a une gloire dans l'humilité. Et ça, souvent, on l'oublie. Et c'est Jésus-Christ qui va nous l'apprendre. Donc, vivre l'humilité conduit à l'unité. Il y a beaucoup de « u » là-dedans. Mais il le faut. Et Paul commence par des outils, quelque part, qui vont nous aider. Il dit « si », mais dans le grec, on pourrait dire « puisque ». Ce n'est pas « si », peut-être, il y aurait quelque chose. C'est « puisque nous avons la consolation en Christ ». On en a parlé tout à l'heure dans le psaume, on a cette consolation. Que ce soit dans le combat, dans la difficulté, Dieu peut nous encourager, à condition, évidemment, qu'on le laisse faire dans notre vie. « Si nous avons le soulagement de l'amour, et nous l'avons », le mot parle plutôt de paroles persuasives, de réconfort qu'apporte l'amour. C'est bien de se sentir aimé, non? Tu préfères être détesté? Moi, j'aime bien être aimé. Bon, après, t'entends, on apprend à être détesté, évidemment, surtout en tant que pasteur, mais j'aime bien être aimé. Mais on a cette possibilité de s'aimer les uns les autres, et ça, c'est un réconfort, quelque part, et c'est un outil aussi. S'il y a une communion dans l'esprit, une communion fraternelle, c'est-à-dire que chacun est disponible au Saint-Esprit d'agir comme il a envie dans notre vie, prêt à se laisser transformer, prêt à travailler pour lui comme lui le demande. Et c'est ça la communion fraternelle, c'est pas de manger un dimanche après-midi une agape ou un truc, c'est bien d'être ensemble, mais c'est beaucoup plus loin que de manger ensemble. S'il y a compassion et miséricorde, la compassion en fait dans le grec ça parle des entrailles. Quand on dit que j'ai compassion pour quelqu'un, c'est que ça me bouffe de l'intérieur, tellement je l'aime et que je veux vraiment avoir de l'amour pour cette personne-là ou de la miséricorde. Si nous avons tout ça, et nous l'avons, puisque on l'a dit, nous l'avons, ben si nous avons toutes ces choses-là, alors on peut vivre tranquille et uni. Eh bien non. Pourquoi les églises se divisent? parce qu'il manque l'humilité bien souvent. Pourquoi on se tape les uns sur les autres? Parce que je pense être meilleur que l'autre, parce que j'ai de l'orgueil bien souvent. Mais puisque j'ai la consolation, le soulagement, la communion à l'esprit, la compassion, alors je peux vivre humblement et je peux vivre dans l'unité. Et Paul dit cela le rendra joyeux. Mais moi, je me suis dit, ça rendra aussi Christ joyeux. Hein, parce que quand il nous voit vivre humblement, que l'Église avance comme cela, Jésus-Christ est tout à fait honoré. Et j'ai envie de faire plaisir au Seigneur. En tout cas, moi. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez envie. Oui, j'espère bien. Vive l'humilité pour une unité d'Église avec un même sentiment, il dit. Hein, le mot sentiment, c'est compréhensif, être sage, avoir une opinion humble de soi. Le problème, bien souvent, dans l'Église, c'est que moi, je suis... par rapport aux autres. Je suis un vieux chrétien, par exemple. J'en connais beaucoup plus que les autres. Moi. Non. Il dit avoir une opinion humble de soi. Parce que, de toute façon, un jour, on sera devant le Seigneur et il va nous rappeler à l'ordre. Peut-être pas forcément dans le ciel, mais déjà sur la terre. Il dit d'avoir un même amour. Alors, quand on va poser la question à chacun, l'amour, on va peut-être avoir des définitions un peu différentes les uns les autres. Mais je pense que l'amour qu'il nous demande là, c'est basé sur l'amour de Dieu, selon sa définition et ses critères. Et cet amour... pardonne. Ça, c'est le grand problème aussi entre les chrétiens. Il pardonne et il aime vraiment. Parce que si je dis que je vous aime et que je ne vous pardonne pas, je vous mens, tout simplement. Alors, il y a des pardons difficiles, il y a des pardons faciles, mais des fois, Dieu permet qu'on ait des pardons difficiles pour apprendre à grandir et surtout à comprendre que lui m'a pardonné trop, un milliard de fois plus que ce que moi, des fois, j'ai à demander pardon ou à pardonner à quelqu'un. Il demande d'avoir une même âme. Quelqu'un disait, ce mot est composé de « sun » en grec, hein, ça veut dire « ensemble avec » et « psychos » qui est l'âme, le moi, la vie, l'intérieur. Et dit, ainsi le mot se réfère à une unité dans l'esprit d'une façon harmonieuse. Paul désirait que les Philippiens soient unis dans leur affection, qu'ils soient en Christ dans tous leurs désirs, dans tous leurs désirs. Hein. Et le mot ne se trouve en fait qu'ici dans le Nouveau Testament. Il est employé une seule fois, c'est ce qu'on appelle un apax. Pour ceux qui aiment la théologie, c'est quelque chose qui est là une seule fois, mais ce qu'il voudrait, c'est que les chrétiens soient en harmonie, une même âme. Alors, on est tous différents, vous allez dire, mais comment on va faire, hein? On a une culture différente, on a un âge différent, on n'a pas le même âge spirituel, on pourrait dire, parce qu'il y en a qui se sont convertis, mais comment on peut être d'une même âme? Ben, c'est possible, on y arrivera par l'humilité, tout simplement, hein? Et d'être d'un commun accord. Alors, on ne sera peut-être pas toujours d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On se tape dessus? Ouais, celui-là qui est le plus fort, il va gagner. On prend le temps de discuter humblement, de prier, de se mettre ensemble à travailler pour trouver un accord et vivre cette harmonie. Je crois que c'est ce qu'il faut faire. Et donc, il parle là surtout de l'unité de l'Église qui ne va venir que par l'humilité, par l'harmonie de ses membres en Christ. Notre Église tiendra si nous vivons humblement, si nous avons une petite opinion de nous-mêmes. Ça ne veut pas dire être, se sentir minable, hein, que de se sentir humble, on est bien d'accord, hein. Est ce qu'on est. Mais bon, je ne vais pas dire que grâce à moi, l'Église fonctionne. Parce que moi, je peux partir, ça continuera. Hein. Vous n'avez pas besoin de moi. Ou de vous. Alors, dans les deux sens. Enfin, restez quand même. Hein. Je me voudrais quand même que vous restiez. Il parle des ennemis de l'unité aussi, et donc de l'humilité. Quelque part, il dit qu'il y en a qui avaient l'esprit de parti. Hein. C'est le mot dit travailler pour soi, par l'intrigue, querelleur. C'est un peu comme on fait dans les campagnes politiques. Hein. On travaille que pour soi et pour gagner, en fait. Et il y a parfois des chrétiens qui sont comme cela. Qui travaillent uniquement pour soi, ils se déguisent bien souvent en disant « on travaille pour l'Église », mais ils font tout ça pour leur propre orgueil. Il dit aussi de ne pas rechercher une vaine gloire. Vous savez, la Bible nous dit que tout ce que nous faisons dans l'Église, ou tout ce que nous avons, vient de qui? De Dieu. Qu'est-ce que je peux aller prétendre à quoi que ce soit? Mais parfois, ben, l'orgueil s'enfle et on a envie d'être vu des autres, par exemple. Hein. On a envie d'être devant. Il y en a beaucoup qui aiment bien être devant. Si vous saviez ce que c'est d'être devant, des fois, moi, j'aimerais bien être assis, des fois. Mais bon, voilà, ça, c'est l'orgueil. Après, l'orgueil a plusieurs manifestations et on est tous orgueilleux. On l'est tous, je le suis. À nous, simplement, de savoir le temporiser, savoir le repérer pour qu'il n'agisse pas et ne fasse pas du mal à mon prochain. Et si ça arrive, je peux demander pardon. Enfin, j'espère que vous me pardonnerez. Ce qu'est l'humilité en pratique, nous dit Paul, est une définition du mot humilité. Hein. En fait, le grec ne connaissait pas l'adjectif, ou il le connaissait plutôt que dans le sens de vil ou de méprisable. Pour un grec à l'époque, être humble, c'était quelque chose de méprisable, en fait. Alors que là, Paul est carrément en train de dire le contraire. Hein. Le nom humilité ne se trouve pas dans la littérature avant le Nouveau Testament. et on comprend un peu le monde comment il était avant, avant que Jésus arrive. Hein, ils s'entretuaient tout le temps. Jésus nous rappelle que ce qu'est l'humilité. Il dit dans Marc, par exemple, c'est être au service des autres. C'est aussi, toujours dans Marc, savoir être le dernier. Être le dernier. Alors que le monde nous dit d'être les premiers. Toujours premier. Le Seigneur nous apprend d'être parfois le dernier parce que les derniers seront les... Ouais, on le sait, mais des fois, on est vraiment derrière. Hein. Mais bon, c'est ça l'humilité. En fait, être humble, c'est être simplement ce qu'on est vraiment. Parce que quand l'orgueil commence à enfler, on prétend à des choses des fois qui ne sont même pas réelles. Mais si je reste humble, je suis comme je suis réellement et comme Dieu me voit surtout. Je vais regarder les autres comme étant au-dessus de moi, nous demande Paul. Vous êtes au-dessus de moi. Ah oui, mais l'inverse marche aussi. Et c'est pour ça que tout est équilibré. Si chacun se regarde comme étant en dessous de l'autre, eh ben, ça va donner une espèce d'équilibre à l'Église et ça va donner envie tout simplement de servir le prochain. Il dit aussi considérer les intérêts des autres. On parle là de l'abnégation, de briser notre égoïsme. Alors naturellement, j'ai essayé déjà de briser l'égoïsme, ça ne marche pas tout seul. Il faut vraiment l'aide du Saint-Esprit. Mais c'est pour ça qu'il faut se laisser travailler par lui. Et tout doucement, avec le temps, il va nous briser. De plus en plus, on parlait d'épreuves tout à l'heure, c'est souvent là qu'on est brisé, dans notre orgueil, dans notre prétention. Mais laissez-vous faire, parce que c'est formidable, c'est utile à l'Église aussi. C'est utile à moi d'abord, mais c'est utile aussi à l'Église et pour les intérêts des autres. Et il dit « Ayez les sentiments de Jésus-Christ ». En y réfléchissant là d'un seul coup de nouveau, c'était quoi les sentiments de Jésus-Christ ? Je vous laisse un peu parler.
L'amour.
Service.
Le don.
Service, le don. Je pense qu'on est à 35% de savoir vraiment ce que le Seigneur éprouvait réellement. Alors, il ne nous demande pas d'être comme le Seigneur, je pense. Mais en tout cas, prendre le temps de s'arrêter des fois dans la vie, surtout quand on est un peu prétentieux, et de se dire, mais voilà l'exemple de Jésus-Christ. Et on va en parler tout à l'heure. Pourquoi moi, je me dis que je suis meilleur que ça? Pourquoi moi, je ne veux pas m'humilier comme Jésus-Christ, hein? Et il dit « ayez en vous », il ne dit pas « ayez en chacun », il dit « en vous », ça veut dire « tout le monde est appelé par vivre ces sentiments de Jésus-Christ et à les avoir en soi ». En fait, c'est tout simplement imiter Jésus-Christ. Mais si je ne connais pas Jésus-Christ, je vais imiter le peu que je connais. Et on va revenir toujours à cette parole. Prenez le temps de relire 20 fois, 40 fois les évangiles. 60, ça serait bien. Vous avez le temps, on n'est pas encore vieux à ce point-là. Mais c'est là où on va voir l'exemple de Jésus-Christ. Et c'est là où on va s'imprégner aussi, commencer à apprendre à imiter ce que Jésus-Christ est en tant que personne. Toute l'Église, nous dit Paul, est appelée à être humble. Ce n'est pas le travail du pasteur seulement, ni de certains. Chacun d'entre nous, où qu'on en soit avec le Seigneur, on est appelé à être humble. Et parce qu'on sera comme ça, eh ben on a l'assurance que l'Église fonctionnera tranquillement. Il y aura ses hauts, il y aura ses bas. Mais si on sait être humble, ça avancera tranquillement. Et puis Paul, pour faire un contraste avec ce qu'il demande à l'Église, va parler maintenant de Jésus-Christ. Et l'humilité par excellence, parce que je n'ai pas trouvé un autre homme, quelqu'un dans ce monde qui a été aussi humble que Jésus-Christ. Il parle de l'abaissement, justement, du Seigneur, qui va partir du trône à la croix. Je ne sais pas si vous avez déjà été servi dans un palais par plein de gens, et encore, je ne peux même pas imaginer que ça soit encore plus glorieux que ça, mais que d'un seul coup, on vous dise, voilà... Vous allez quitter tout ça, toute cette gloire, toutes ces bonnes choses que vous avez. Et ce que je vous propose, c'est de devenir un pauvre homme, avec toutes ces difficultés, ces souffrances. Et en même temps, vous allez aller jusqu'à la croix. Qui est d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? C'est pas terrible. Hein, on est censé imiter Jésus-Christ, normalement. Hein, mais c'est ce que le Seigneur a fait, et on a tendance souvent à l'oublier. Il dit, et là on fait un peu de théologie, hein, il dit « existant en forme de Dieu ». En fait, en disant cela, Paul démontre que Christ était préexistant. Et s'il était préexistant, ça veut dire qu'il était de toute éternité. Et s'il est de toute éternité, ça veut dire qu'il est divin. C'est un texte là, pour ceux qui disent que Jésus n'est pas divin, il faudrait vraiment qu'il l'analyse un petit peu. Existant en forme de Dieu, et Jean nous le rappelle aussi, hein, Jésus est la parole qui était là de toute éternité. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Christ est égal à Dieu, il est Dieu, puisqu'on parle là de la Trinité, mais sa position n'a pas influencé son amour. Hein, quand on a des grandes positions, des fois on réagit d'une autre manière. Ça n'a pas influencé sa conduite. Il aurait pu dire, attendez, je suis Dieu, pourquoi moi je vais m'abaisser? Parce que je suis Dieu, pourquoi moi je vais devoir m'incarner, et surtout pourquoi moi je devrais mourir alors que je n'ai jamais rien fait? Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. La proie arrachée en grec, c'est un rapt. C'est quelque chose qui est très violent. Hein. En fait, il ne s'est pas accroché à cette égalité avec Dieu. Moi, je me serais accroché en tant qu'homme. Mais lui a accepté de ne pas s'accrocher aussi fortement qu'on peut l'imaginer, parce qu'il le méritait de toute façon. Mais il ne s'est pas accroché à être ce Dieu et à rester dans la gloire. Et là, il nous montre vraiment l'humilité, la vraie humilité. La vraie humilité ne s'accroche pas à sa position ou à sa hiérarchie ou je ne sais pas à ce que l'homme a inventé. Il accepte des fois de lâcher prise. Et ça, c'est très difficile. Surtout en tant qu'homme. Jésus, je pensais aussi, a dû être difficile, mais il l'a fait. Il est Dieu. Mais nous, quand on a des grandes positions et qu'il faut des fois lâcher, c'est dur, croyez-moi. Mais lui, il a accepté par humilité. Il s'est dépouillé lui-même, il dit. Il a accepté le dépouillement. Alors, ce dépouillement, hein, c'est toute une doctrine. Je vais essayer d'être le plus simple. Hein. C'est ce qu'on appelle la kénose. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Mais Jésus s'est dépouillé d'abord de sa gloire divine. Il a accepté de se dépouiller de cette gloire. Il a accepté de se dépouiller de l'autorité divine. Ce Dieu avec toute l'autorité. Il a accepté de se dépouiller de l'exercice volontaire de certains de ses attributs. Il va être omniscient, il aura encore des attributs divins, mais certains, il va les réfréner. Un grand mystère. Il va accepter de se dépouiller de ses richesses célestes, puisqu'il dit qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Et il va accepter de se dépouiller de sa relation avec le Père, puisque sur la croix, il va dire « Père, tu m'as abandonné ». Vous imaginez tout ce que le Seigneur a accepté de lâcher simplement pour des gens qui sont foutés, excusez-moi le terme, mais c'est ça, de Dieu, qui ne le cherchaient pas, qui n'en voulaient pas, qui le combattaient, il a accepté de tout quitter pour moi. On est prêt à faire ça? La kénose, donc, ce dépouillement, hein, parce qu'en fait, le dépouillement, c'est kénéo, donc on a sorti cette doctrine. Et quelqu'un écrivait, certains y voient que Christ a perdu des attributs relatifs, comme l'omniscience, pour garder que les attributs essentiels, l'amour, la justice, la sainteté, mais à un moment, Jésus savait ce que pensaient les pharisiens, donc il était omniscient. Ce dépouillement, il termine en disant, est donc celui de sa gloire et non de sa divinité. Quand Jésus s'est incarné, il n'a pas perdu sa divinité, il a réfréné certaines choses, mais il a surtout perdu sa gloire. Et ça, quand on est glorieux, généralement, quand on demande aux hommes qui ont plein de gloire de le quitter, ben c'est rare qu'il abandonne, parce que la gloire, c'est bien, c'est bon pour l'orgueil. Un autre disait qu'en fait, il a changé de mode d'existence. Et je trouve ça intéressant. Il dit, ainsi, la seconde clause, c'est-à-dire il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, ne décrit pas la nature ni les sens. Il n'a pas changé de forme, hein, d'essence, mais le mode d'existence. Un mode d'existence peut être substitué à un autre, bien que la nature essentielle soit immuable. On va prendre par exemple le cas de Paul dans 2 Corinthiens 8, 9. Il dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, c'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichi. Dans les deux cas, il y a un changement de mode d'existence et non de nature. Il n'a pas changé sa nature, le Seigneur. Quand un pauvre homme devient riche, son mode d'existence change, mais pas sa nature humaine. Il y a qu'il y aura des changements à un moment donné, parce que quand on commence à avoir de l'argent, ça change, mais on se comprend. Tel a été le cas pour le Fils de Dieu. Par amour pour nous, il quitta un mode d'existence fait de richesse et de gloire, juste manifestation de sa nature divine, pour venir se taire, assumer un mode d'existence infiniment plus bas et plus pauvre, ainsi que la condition de l'homme. Il a accepté de changer de mode d'existence, il a accepté de tout laisser simplement pour venir sur la terre, et dissimuler, on pourrait dire, un auteur disait, il dissimulait la gloire de Dieu dans un corps d'homme. J'aurais bien voulu des fois être à la place des disciples, parce que quand Jésus dit « je suis Dieu », j'aurais voulu être là, quand même. C'est-à-dire, j'ai Dieu en face de moi. Eux, ils n'avaient pas tout à fait compris, et je pense qu'on n'aurait pas plus compris non plus à ce moment-là. Mais vous imaginez quand même Dieu à côté de vous, là. Bonjour, je m'appelle Emmanuel. Jésus, bonjour. Un jour, on le fera, mais ça sera dans le ciel et on sera parfait. Mais ça devait être quelque chose d'extraordinaire. Mais il dit aussi, il s'est dépouillé lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris la décision. La Trinité était d'accord, évidemment. Mais il a dit à un moment, c'est moi. Je vois bien que les hommes, ils ne peuvent rien faire pour être sauvés. Bon, ben, il faut que j'y aille. Hein. Mais il l'a fait lui-même, il l'a accepté lui-même. C'est un acte volontaire, mais en même temps de toute la puissance de Dieu qui est là-dedans et qui va se manifester. Hein. Savoir perdre sa gloire, savoir perdre les honneurs, ça s'appelle l'humilité. Alors on n'est pas des grands hommes, enfin, je ne sais pas s'il y a des grands hommes ici, mais le jour où vous devrez tout perdre, pensez à Jésus-Christ. Acceptez de perdre des fois, de vous humilier. Hein. Et Jésus-Christ a fait tout ça pour me sauver. Peut-être qu'un jour, on devra aussi être humilié pour pouvoir aider, pouvoir exhorter, pour pouvoir encourager, mais est-ce qu'on sera prêt à s'humilier ? Il dit au verset 7, en prenant une forme de serviteur. Hein, il avait, en grec, c'est la forme, c'est la morphée, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, qui était inhérente à Dieu, et là il va prendre la morphée, c'est-à-dire la forme de serviteur. Celui qui a été servi par les anges, qui devrait être servi par les hommes, a décidé maintenant de servir les hommes. Le jour où je serai servi par tout le monde, je resterai dans cette situation-là. Je n'ai pas envie de faire l'inverse, moi. Enfin, je le ferai parce que je suis chrétien, évidemment. Mais il a accepté de servir les hommes, et il l'a démontré, hein, tout simplement quand il va laver les pieds de ses disciples. Qui voudrait laver mes pieds tout à l'heure ? Alors nous, on prétend déjà, parce qu'on n'est que des hommes, et bon, je me les laverai avant, hein, si vous voulez. Mais lui, parce que si on connaît le passage, en fait, il a accepté le tablier de serviteur. Il s'est abaissé pour devenir l'esclave, parce que le mot en grec, c'est doulos, c'est esclave. Il est devenu l'esclave des hommes. Le grand Dieu a accepté de devenir l'esclave des hommes. Et le grand Emmanuel, des fois, dit, je n'ai pas envie d'être l'esclave des grands autres êtres humains. Et c'est valable pour chacun d'entre nous. Lui, il l'a accepté. Et il nous montre qu'il faut beaucoup d'humilité pour servir le prochain. Des fois, on sait aider le prochain, mais quand il faut vraiment l'aider, ça coûte. Ça coûte parfois. Et dit, il est devenu semblable aux hommes et paru comme un simple homme ou comme un vrai homme. Hein. Quand on analyse le terme semblable, c'est-à-dire en fait, il est devenu une copie de l'homme, tout en gardant sa divinité, mais il est devenu comme nous, conforme à nous. Il avait mal, il souffrait comme nous, parce qu'il a souffert sur la croix, il a même pleuré à un moment, hein, le passage le plus court dans la Bible. Il était comme nous. Et donc, comme dit Hébreu, il peut absolument me comprendre. Et moi, tous les jours, je dis, tu ne me comprends pas dans l'épreuve. Tu ne comprends pas, pourquoi tu fais rien ? Il a souffert exactement la même chose que nous, et je crois bien pire que nous. Le Seigneur nous montre que l'humilité cherche à s'identifier aussi à l'autre et à comprendre l'autre. Si je veux servir, être humble vis-à-vis de l'autre, je dois aussi apprendre à le comprendre. Ça, ce n'est pas toujours évident. Bon, on n'est pas à Jésus parce que lui, il peut rentrer dans le cœur de quelqu'un, mais je dois apprendre à m'identifier à l'autre. Et c'est ce que Jésus a fait, il s'est identifié à nous. Et c'est formidable parce que maintenant, je me dis que j'ai un avocat, j'ai quelqu'un qui sait exactement ce que je souffre. Alors, il aurait pu juste nous le dire parce que c'est Dieu, il sait, mais il n'a pas seulement dit, il l'a vécu. Et ça, c'est autre chose. Parce que quand quelqu'un me dit, quand je suis dans une difficulté, qu'il a traversé la même chose que moi, la première réaction souvent, c'est de dire, oui, mais moi, c'est pire. Mais bon, si on partage un peu l'expérience, c'est vrai que le fait qu'il ait expérimenté la même épreuve que moi, je pense par rapport à un deuil, par exemple, ben on commence à mieux se comprendre. On ne vit pas les mêmes choses, mais on apprend à se comprendre. Et moi, je parle là de l'humilité par excellence. Hein, et verset 8, il s'est humilié lui-même. On l'a dit, un acte volontaire de Jésus, une décision personnelle. Mais il n'y avait qu'une seule motivation, c'était quoi ? Pourquoi Jésus a accepté de faire tout ça ? Qu'est-ce qui le motivait ?
Nous sauver.
Pourquoi il voulait nous sauver ? Parce qu'il nous aime, tout simplement. C'est que l'amour. Hein. Et là, je crois qu'on a l'amour à l'apogée. Hein. Et ce qu'il nous apprend là, c'est qu'on ne n'est pas humble, mais on décide de devenir humble. Hein. Ce n'est pas un jour en marchant dans la rue que, en tant que chrétien, vous devenez humble. Si vous ne faites pas le choix d'être humble, ça n'arrivera jamais. Et quand on fait le choix de devenir humble, généralement, il y a beaucoup de soucis qui arrivent derrière. Des épreuves, des difficultés, des choses qui vont nous transformer, mais laissons faire le Seigneur, justement, pour apprendre à être humble. Comme Christ a accepté de s'humilier pour venir sur la terre, je dois décider à un moment aussi d'accepter de me laisser humilier par le Seigneur. Et dit, il a été obéissant jusqu'à la mort. Obéissant à Dieu, évidemment, son Père, on l'a vu dans toute sa vie, il a toujours été obéissant, mais en toutes circonstances, et ça rejoint un peu le psaume peut-être tout à l'heure, mais comment il a pu faire confiance à Dieu comme cela ? Pourquoi vous serviez Dieu ? Pourquoi vous lui faites confiance ? Ouais, parce qu'il est fidèle. Fort, je suis sourd, moi. Sans Dieu, on peut rien faire ? Oui. C'est un grand Dieu. Surtout parce que Jésus connaissait le Père. Tout simplement. Surtout que lui, il l'a vu face à face, on va dire. Mais si je ne connais pas le Père, je n'aurai pas confiance en Dieu, ou une demi-confiance, une mini-confiance, on pourrait dire. Il faut donc que j'apprenne à connaître le Père de plus en plus, à connaître Dieu. Et évidemment, ça se fait au travers de la parole, ça ne viendra pas comme ça de façon innée. Mais lui, il avait confiance, mais sans humilité, il n'aurait pas pu aller jusqu'au bout, il n'aurait pas pu aller jusqu'à la mort. Parce que bien souvent dans l'épreuve, on en parlait tout à l'heure, on a tendance plutôt d'abord, première réaction, à se révolter contre Dieu. Pourquoi moi? Pourquoi encore une fois? Pourquoi tant de douleur? Etc. Jésus aurait pu faire la même chose, mais il a accepté. Des fois, on pourrait croire de même pas comprendre pourquoi il devait faire certaines choses et d'aller jusqu'au bout. Hein. Parce qu'à Gethsémané, s'il avait pu écarter la coupe, il l'aurait écarté, certainement. Mais bon, on sait qu'il était obligé d'y aller. Mais ne doutez pas du Père. Et même sur la croix, quand il a dit « Père, tu m'as abandonné », c'est pas dans le sens où Dieu l'a abandonné, c'était bien différent. Mais bon. Et il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et la croix, on sait que dans l'Ancien Testament, c'était réservé aux esclaves, aux criminels. C'était la pire des humiliations que quelqu'un pouvait avoir. Et je trouvais une petite description de ce que c'était, hein, même si vous avez un peu d'imagination, mais je ne veux pas vous faire peur non plus. Mais la mort par crucifixion semble inclure tout ce que la souffrance et la mort peut avoir d'horrible et d'épouvantable. Étourdissement, crampe, soif, faim, insomnie, fièvre traumatique, honte, opprobre, tourment prolongé, horreur de l'anticipation, hein, on va mourir, mortification des blessures intentionnelles, le tout intensifié jusqu'au seuil de l'insupportable, mais sans jamais atteindre le point où le supplicié bénéficierait du soulagement de l'inconscience, hein, c'est-à-dire qu'il tomberait dans les pommes. La position non naturelle rendait chaque mouvement douloureux, les veines lacérées, les tendons écrasés, palpitaient d'une angoisse incessante. On ne peut pas imaginer ce que le Seigneur a vécu, et je crois que ce n'est même pas ça le pire, c'est quand il a pris le péché sur lui. Alors quand nous, on culpabilise des fois avec notre péché, ça nous fait mal, hein, on pleure devant le Seigneur. Mais prenez 1 milliard de fois, et si ce n'est pas plus, tout cela sur vous à un moment. Plus la douleur de la crucifixion. Et humilié devant tout le monde, alors qu'il aurait fait ça, 1 millier d'anges est arrivé, il aurait rasé Jérusalem, c'était arrivé, je suis le Messie, lâchez-moi. Il a accepté d'aller jusqu'au bout. Et si là, il n'y a pas de l'humilité, je ne sais pas où on va trouver l'humilité quelque part. Mais il nous montre surtout que si je suis confiant en Dieu, et quelles que soient les circonstances, eh ben je peux aller jusqu'au bout. Et il y a beaucoup de chrétiens plus tard qui vont donner aussi leur vie pour le Seigneur, hein, qui vont aussi passer par des moments assez douloureux, et parce qu'ils avaient confiance en Dieu et avaient compris qui était le Seigneur, ils ont accepté d'être humbles, parce qu'il faut de l'humilité, je pense, pour mourir pour le Seigneur, mais ils sont allés jusqu'au bout. Jésus mérite toute la gloire, hein, parce qu'il a démontré cette humilité, cette véritable humilité. Et pour moi, ça sera toujours un exemple. Et si mon petit cœur, des fois, hein, s'enorgueillit, allez vite relire un peu Philippiens 2, hein, prendre le temps de méditer cela, et généralement, on se calme très vite devant le Seigneur. Et on l'a dit, une troisième chose qu'on apprend, c'est qu'il y a de la gloire dans l'humilité. On va dire, c'est une petite contradiction, parce que la gloire, normalement, c'est plutôt l'orgueil dans ce monde. Hein. Non, il y a de la gloire dans l'humilité, parce que Dieu va élever celui qui a été humble. Hein. Il dit, il a été souverainement élevé. Élevé au plus grand rang, au plus grand pouvoir, et ça, on le verra tout simplement à la fin des temps. En fait, il a repris son statut, on va dire, de Dieu, hein. Mais il est plus grand maintenant. Et Dieu récompense son Fils tout simplement parce qu'il était obéissant, parce qu'il a accepté d'être humble, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il a aimé le pécheur. Et il a une récompense au bout. Il démontre là ce qu'est la vraie gloire. Hein. Quand on verra la gloire de Dieu, ça va être magnifique, mais il y a un autre synonyme à ça, c'est l'humilité. Ce n'est pas la gloire des hommes, ce n'est pas la puissance de l'homme, c'est toute l'humilité et tout l'amour de Dieu concentré là-dedans. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On pourrait se poser la question, alors certains se posent la question, c'est quoi ce nom? Mais je crois qu'il le dit après, c'est celui de Seigneur. Et là, j'aimerais appuyer un peu, parce que si c'est le plus grand des noms, et on va fléchir le genou devant, nos petits seigneurs, des fois, qu'on dit rapidement, ça devrait me faire réfléchir. Hein, parce que le plus grand nom, c'est celui de Seigneur. Et tous les jours, je dis Seigneur, 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 sans réfléchir que c'est le plus grand des noms, et le plus puissant aussi. Alors on sait que les Juifs, par exemple, dans l'hébreu, ne disaient jamais Yahvé, Dieu, hein, mais disaient Adonai, ça veut dire Seigneur. Parce que pour eux, le nom Yahvé, c'était trop glorieux, en fait. Et donc, quelque part, en disant que le plus grand nom pour Jésus-Christ, c'est Seigneur, ils sont en train de lui donner les titres de Yahvé, tout simplement. Et donc, Paul déclare que Jésus est tout simplement Dieu. Attention quand on dit Seigneur, 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 Seigneur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, mais de temps en temps, il faut quand même réfléchir à ce qu'on dit. Quand je dis à mon Seigneur, à Jésus-Christ, que tu es mon Seigneur, ça veut dire que je dis aussi que tu as tous les droits sur moi. Tous les droits. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça?
Oui.
Ouais, dimanche matin, ouais, on est prêt à accepter ça. Hein, mais demain matin, l'épreuve arrive et bon, le Seigneur, il diminue vite. Hein. Mais il faut se souvenir que c'est, chaque fois que je vais dire Seigneur, c'est le plus beau et le plus grand des noms, le plus puissant des noms. Formidable, non? Et c'est celui qui m'accompagne tous les jours, comme on a vu dans le psaume. Donc tout va bien, non? On n'aura jamais aucun problème. Enfin, pas au niveau de Dieu, mais c'est plutôt mon côté qui a des problèmes. Mais il y a une victoire dans cette humilité, parce qu'il est dit au verset 10, « Tout genou fléchira ». Alors, il y en a qui vous embêtent aujourd'hui, qui vous, se moquent de vous. Moi, je me dis dans mon cœur, « Attends, mon coco, à un moment, tu devras quand même reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur et tu devras fléchir le genou. » Je préfère accepter Jésus-Christ aujourd'hui et fléchir le genou, parce que je le ferai de manière volontaire. Mais quand ça sera obligatoire, tous ces grands puissants avec l'orgueil et tout ça qui vont devoir fléchir le genou devant Jésus-Christ, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Tout genou fléchira devant le seul Dieu. Et là, encore une fois, il faut connaître un peu l'Ancien Testament parce qu'il est dit dans Ésaïe 45, 22, 23, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. » Toute langue jurera par moi. Ouais. Et Paul fait la connexion tout simplement encore une fois en disant que Jésus-Christ, puisqu'on reprend l'exemple d'Ésaïe, est tout simplement Dieu, est tout simplement divin. Et ça sera l'humiliation du monde entier devant le grand humilié. Jésus a accepté de se faire humilier, mais à un moment, ça sera aussi aux hommes. Et ça sera leur tour. Et ça sera moins drôle. Il parle de plusieurs choses. Il y aura des genoux terrestres qui devront fléchir du roi, au plus petit, parce que souvent on pense aux grands, à tous ces gens politiques ou à qui ont de l'argent, mais au plus petit aussi. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas riche qu'on est, on a plein d'orgueil, hélas. Hein. Et chacun, tout le monde devra fléchir le genou sur la terre. Tous ceux qui refusent Jésus-Christ dans leur vie aujourd'hui. C'est terrible quand on y pense. Il y a ces genoux célestes, hein, c'est des images évidemment, dans le ciel. Les anges, les archanges, eux le font déjà quelque part, mais il y aura aussi tous les rachetés. Tout le monde, nous allons nous agenouiller devant Jésus-Christ. Dans les genoux souterrains, parce qu'on va parler du monde souterrain, le diable aussi devra fléchir le genou, les démons, tous ceux qui luttent après Dieu, tous ceux qui sont perdus vont devoir fléchir le genou. Le monde entier, dans toute sa dimension, va fléchir le genou devant Jésus-Christ. Ça sera un beau moment, je crois. Et surtout, ça sera toute la gloire de Jésus-Christ. Et ça nous rappellera bien cette croix, il mérite amplement. Jésus nous montre que l'humilité est bien plus puissante que le mal, même si parfois on regarde autour de nous, on se dit, ouais, bon, on n'a pas l'impression, mais il faut regarder au bout, il ne faut pas regarder là, au moment précis. C'est au bout que tout se réglera et la terre, le diable, tout est déjà écrasé devant Jésus-Christ. Et fait une confession universelle aussi de l'œuvre de Jésus-Christ au verset 11, hein, parce que le monde entier devra confesser ce nom qu'est Jésus-Christ, et j'ai envie de dire, ben, le dernier mot, ça sera l'humilité. Tout simplement. Il sera à cause de l'humilité de Jésus-Christ. Le monde se bat à cause de son orgueil parce qu'il se croit plus fort. Mais à la fin, c'est l'humilité qui triomphera de tout ça. Hein? Alors, des fois, quand nous, on veut se battre contre les autres ou quand on se sent un peu... Il faut penser à ça. Il vaut mieux être humble, même si des fois, ça nous coûte. Mais au bout, c'est moi qui ai la victoire parce que je serai humble. Et des fois, ça nous coûte très cher. Il ne faut pas croire. Hein? Mais ça a coûté aussi très cher au Seigneur, mais... Au bout, il nous démontre qu'il aura toute la victoire. Le monde lui sera désormais soumis, autant les hommes, autant toutes les puissances démoniaques, etc. Tout le monde devra s'écraser devant Jésus-Christ. À la croix, ils ont tous râlé, ils se sont moqués, ils ont fait tout, et on aurait fait exactement la même chose, mais à un moment, il y aura un silence total. Et on devra accepter de s'écraser devant Jésus-Christ. Et Jésus, comme il dit, est à la gloire de Dieu à ce moment-là, et je pense que en Jésus-Christ, la gloire qu'il cherchait là, c'était pas sa gloire personnelle, c'est pas ça. Mais c'était la seule motivation qu'il avait, et au travers de l'humilité, c'était la gloire de son Père, tout simplement. Et il acceptait tout cela, non pas pour sa propre gloire, même je pense qu'il est Dieu, il savait ce qui allait arriver après, mais il l'a quand même fait, il n'était pas obligé. Mais il l'a accepté. Si je vous disais que vous pourriez mourir sur une croix, mais qu'après vous allez ressusciter, vous y allez quand même ? On va hésiter quand même, hein, même si on sait. Donc il a vécu la même chose. Hein. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Il y a donc une puissance infinie, j'ai envie de dire, et là, un paradoxe, dans l'humilité. On est le plus puissant quand on est humble. C'est curieux, hein, parce que c'est pas ce que le monde nous apprend. Il nous dit qu'il faut être orgueilleux, il faut écraser l'autre, il faut vraiment lutter. Non, c'est quand on est humble qu'on devient le plus puissant. C'est pas visible forcément tout de suite, mais ce sera en tout cas visible à la fin. Des fois, c'est visible aussi tout de suite. Mais Christ est la preuve, justement, universelle que la plus grande des humilités, c'est la plus grande des gloires, c'est la plus grande des victoires. Pour terminer, on l'a dit, si on veut que notre Église soit en bonne santé, allez chez le médecin déjà, parce que j'entends tousser, mais ça c'est autre chose, hein, mais on a besoin, spirituellement, de rester humble. Et on est chacun acteur de cette Église. Et le problème peut venir de moi, de vous, à un moment, parce qu'on on se la pète, parce que je ne sais pas quoi. Si on veut vraiment que tout aille bien, vivons humblement. Si vous pensez être indispensable, si vous pensez être supérieur, si vous pensez être meilleur, vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. Je suis dangereux. Ah, ça nous traverse de temps en temps. Il faut être honnête. Ça nous traverse. Mais on a la possibilité de dire, Philippiens 2, chapitre 1, verset 11, Christ, tiens, je vais me calmer un petit peu. Vivre l'humilité, c'est vivre ce que nous sommes réellement, ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ça, en fait, il faut se laisser... scanner par Jésus-Christ, nous rappeler ce qu'on est réellement devant lui, et quand on accepte cette réalité, alors ben, je vais vivre humblement. Vivre l'humilité, c'est le désir de servir mon prochain, mais aussi de l'aimer. Je peux servir mon prochain en lui donnant à manger, tout ça, et je m'en fous complètement de lui. Mais c'est l'aimer aussi. Et aimer, ça coûte très cher parfois. Et vivre l'humilité, c'est tout simplement imiter Jésus-Christ, mais on veut bien l'imiter, mais en obéissant à Dieu. Et obéir à Dieu, c'est pas toujours simple. En obéissant à Dieu, et si je veux lui obéir, c'est parce que je fais toute confiance à mon Seigneur. Que le Seigneur nous aide à vivre cette humilité. Il y a du travail, je crois. À moins que vous soyez déjà tellement humble, je ne pense pas. Hein. Mais vivons cette humilité au quotidien, et ça sera tout bénéfique pour nous. Et je pense qu'en même temps, on va simplement plaire à Jésus-Christ. On va prier. Seigneur, merci pour ce merveilleux passage de Philippiens qui nous rappelle d'abord toute ta grandeur, toute ta gloire. On ne peut même pas imaginer, Seigneur, où tu étais et là où tu es aujourd'hui. Mais ce que nous savons, c'est que tu as accepté de quitter tout cela pour chacun d'entre nous, parce que tu nous as aimés, Seigneur, là où on était, avec nos péchés, avec nos mensonges, avec tout ce que l'homme peut bien faire de mauvais. Et tu nous as regardés du ciel et tu as décidé de descendre, de t'incarner, Seigneur, de prendre ce corps de serviteur simplement pour m'aimer et pour démontrer cet amour à la croix. Seigneur, je pense qu'on ne comprend pas encore vraiment tout cela, ton amour, mais nous voulons essayer de le comprendre davantage chaque jour et comprendre cet amour sur cette croix, comprendre la douleur que tu as acceptée. Et cela doit nous pousser à la reconnaissance, cela doit nous pousser à l'humilité, comme tu nous le demandes dans ta parole. Seigneur, nous sommes loin d'être le chrétien humble par excellence, mais je te prie de nous aider à aspirer, à être de plus en plus humble, à surtout nous souvenir de toi comme modèle, Seigneur. Apprends-nous aussi et fais de cela une conviction en nous qu'au travers de l'humilité, il y a beaucoup de gloire et qu'au bout, finalement, c'est l'humilité qui aura la victoire. Seigneur, je me réjouis de pouvoir un jour fléchir le genou devant toi quand tu viendras dans ce monde et tu instaureras ton royaume. Je prie pour ce monde, pour l'instant, qui lutte après toi, et je te prie qu'ils puissent te découvrir, qu'ils puissent aussi fléchir leur cœur devant toi aujourd'hui, et fais-nous tes ambassadeurs, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. En Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.